Rudolf Steiner, Mythe et mystère égyptien. Première conférence faite à Leipzig le 2 septembre 1908. Lorsque nous nous demandons ce que la science de l'esprit doit être pour l'homme, la réponse naît des sentiments, des impressions qui se sont formés en nous au cours du travail que nous avons accompli dans ce domaine. La science de l'esprit doit être pour nous un chemin conduisant au développement toujours plus élevé de notre humanité, de ce qui est humain en nous. C'est là un but qui semble évident à tout être pensant et sentant, un but vers lequel convergent les idéaux les plus élevés, mais qui comporte aussi le développement des forces les plus profondes de notre âme. En fait, les meilleurs d'entre les hommes se sont demandé depuis toujours comment arriver à développer de façon juste tout ce qui sommeille en nous. Question à laquelle on a donné les réponses les plus diverses. Il n'en est peut-être pas de plus brève, de plus concise que celle que Goethe a tirée de sa profonde sagesse et qu'il nous a donnée dans les mystères. Des contraintes pesant sur tout être se libère celui qui se maîtrise lui-même. Il y a dans ces mots un sens profond, car ils nous montrent de façon claire et frappante où se trouve le point central de toute évolution. Il s'agit pour l'homme de développer son ressentir intérieur en se dépassant lui-même. L'âme qui se domine trouve le chemin qui l'amène plus haut qu'elle-même vers les trésors suprêmes de l'humanité. Ne craignons pas de nous remettre en mémoire ce but si noble de la science de l'esprit, à l'instant où nous allons étudier un sujet comme celui qui va nous occuper maintenant. Il nous soulèvera hors des horizons de la vie courante vers des sommets plus élevés. Pour étudier ce sujet, il nous faudra embrasser du regard de vastes périodes de l'histoire, toute une ère qui s'étend de l'ancienne Égypte jusqu'à nous, à travers plusieurs millénaires. Et ce que nous voulons y chercher, c'est quelque chose qui est relié à notre âme la plus profonde, qui touche au centre de notre vie intérieure. Lorsque l'on cherche à atteindre les sommets de sa vie, on ne s'éloigne qu'en apparence de son domaine immédiat, car cette recherche permet justement de comprendre les choses de la vie courante. Il faut s'abstraire des misères journalières, de ce qu'apporte le train de vie quotidien, et élever son regard vers les grands événements de l'histoire, des peuples et du monde, car on trouve alors le plus sacré des biens de l'âme. Il peut sembler étrange de dire qu'il faille chercher les rapports intimes qui unissent l'ancienne Égypte, celle qui vit naître les sphinx et les puissantes pyramides, et notre temps présent. Il peut sembler plus étrange encore de dire c'est parce que nous voulons mieux comprendre notre temps que nous nous reportons aussi loin en arrière. Mais cela même nous mènera au résultat que nous poursuivons, la possibilité de nous dépasser. Rechercher le rapport qui unit deux époques aussi éloignées semble moins étrange à qui s'est familiarisé avec les concepts essentiels de la science de l'esprit. Car l'une de nos convictions profondes est que l'âme humaine revient toujours vers la terre, que l'homme parcourt à plusieurs reprises le cycle qui va de la naissance à la mort. L'idée de la réincarnation nous est devenue toujours plus familière, et quand nous y réfléchissons, nous pouvons nous demander. Ces âmes qui résident aujourd'hui en nous ont déjà souvent vécu. N'est-il pas possible qu'elles aient existé au temps de l'ancienne Égypte, de la civilisation égyptienne, et que ces âmes qui sont en nous aujourd'hui aient contemplé autrefois les pyramides gigantesques et les sphinx énigmatiques? Question à laquelle il faut répondre par un oui. Le décor s'est renouvelé, mais nos âmes ont déjà contemplé les vieux monuments de la civilisation qu'elles revoient aujourd'hui. Ce sont au fond les mêmes âmes qui ont vécu autrefois, qui ont traversé des époques ultérieures et qui réapparaissent de nos jours. Nous savons qu'aucune vie ne reste sans fruit. Nous savons que l'âme garde en elle ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a appris, et qu'elle le retrouve dans des incarnations suivantes sous forme de force, de faculté, de tendance, de tempérament. La façon dont nous voyons la nature aujourd'hui, dont nous réagissons aux idées de notre temps, dont nous regardons le monde, il faut en chercher la cause dans l'ancienne Égypte, le pays des pyramides. C'est à ce moment qu'a été déposée en nous la cause de notre attitude actuelle en face du monde physique. Nous allons essayer de comprendre comment s'enchaînent mystérieusement les époques de l'histoire. Pour toucher le point capital de notre sujet, il faut remonter très loin dans l'évolution de la Terre. Nous savons que notre planète s'est souvent métamorphosée. L'ancienne Égypte a été précédée par d'autres civilisations. La recherche occulte nous permet de voir bien plus loin encore, jusqu'au temps très ancien des débuts de l'évolution humaine, temps où la Terre avait un tout autre aspect qu'aujourd'hui. L'Asie, l'Afrique de cette époque avait un tout autre sol. Regardons avec les yeux de l'esprit ces temps très anciens. Nous parvenons à l'époque où une catastrophe gigantesque, causée par les forces de l'eau, s'est produite sur notre terre et en a complètement transformé le visage. Remontons plus loin encore, et nous arrivons au temps où la terre avait une toute autre physionomie, où ce qui forme aujourd'hui le sol de l'océan Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique, était un continent. Nos âmes vivaient à cette époque dans des corps tout autrement constitués que les nôtres. C'était l'époque de l'ancienne Atlantide, époque très reculée dont la science ne sait aujourd'hui encore que peu de choses. Ce continent de l'Atlantide périt par les eaux. Les corps des hommes étaient alors autres que ceux d'aujourd'hui, et ils se sont transformés au cours des temps. Mais les âmes qui vivent en nous aujourd'hui vivaient aussi dans les corps des anciens Atlantes. C'étaient nos âmes. La catastrophe détermina un mouvement parmi les peuples Atlantes, un courant de migration de l'ouest vers l'est. Ces peuples, c'étaient nous. Vers la fin de l'Atlantide, le mouvement de migration devint très intense. C'est ainsi que nous sommes allés de l'ouest vers l'est, à travers l'Irlande, l'Écosse, la Hollande, la France et l'Espagne. Les peuples émigrants occupèrent ainsi l'Europe, l'Asie et les régions septentrionales de l'Afrique. Il ne faut pas croire que cette dernière grande migration, venue de l'ouest, n'a rencontré aucun peuple sur ces territoires qui ont peu à peu formé l'Asie, l'Europe et l'Afrique. L'Europe presque entière, les territoires du nord de l'Afrique et une grande partie de l'Asie étaient peuplés par des hommes venus d'autres régions, de sorte que le courant d'immigration entra en contact avec une population étrangère déjà fixée. Toutes sortes de situations culturelles se dégagèrent lorsque l'agitation provoquée par l'immigration se fut calmée. Il y avait par exemple, dans le voisinage de l'Irlande, un territoire où, avant la catastrophe qui se produisit il y a des milliers d'années, vivaient les hommes les plus évolués de la population terrestre. Ceux-ci traversèrent l'Europe sous la conduite de grandes individualités, jusqu'à un point de l'Asie centrale d'où rayonnèrent des groupes civilisateurs vers les régions les plus diverses. L'un de ces groupes, envoyé en Inde, y rencontra une population déjà établie depuis des temps immémoriaux et qui avait aussi sa civilisation propre. Les nouveaux colonisateurs respectèrent ce qui était déjà en place et fondèrent la première civilisation post-atlantéenne, vieille de plusieurs millénaires, et dont l'histoire ignore presque tout. Les événements dont elle parle à ce sujet lui sont postérieurs de plusieurs milliers d'années. Ce trésor de sagesse, que nous appelons les Védas, ne nous fait entendre que les derniers échos d'une civilisation indienne très ancienne, soumise à la direction d'êtres supraterrestres et fondée par les saints rishis. Civilisation d'un caractère unique et dont nous ne pouvons nous faire aujourd'hui qu'une faible idée, car les Védas ne sont que le reflet de cette très vieille civilisation sacrée de l'Inde. Elle fut suivie par la seconde culture post-atlantéenne, dont est née la sagesse de Zarathoustra, et qui donna naissance à la civilisation perse. Comme la période de civilisation indienne, elle dura longtemps et s'acheva avec Zarathoustra. Ensuite, s'édifie, sous l'influence des hommes envoyés dans la région du Nil, la civilisation que nous pouvons résumer en quatre épithètes: la culture chaldéenne, égyptienne, assyrienne, babylonienne. Troisième civilisation de la période post-atlantéenne, établie en Asie mineure et dans les régions nord de l'Afrique, et qui atteignit son apogée dans la magnifique astronomie des Chaldéens, d'une part, et dans la culture égyptienne, d'autre part. Vient ensuite une quatrième période qui s'est épanouie au sud de l'Europe, la période gréco-latine, dont Homère nous chante les débuts, qui a produit l'art de la statuaire grecque et une poésie qui a donné naissance à des œuvres aussi remarquables que les tragédies d'Eschyle et de Sophocle. La civilisation romaine s'y rattache. Cette période commence environ au 7e siècle avant Jésus-Christ et dure jusqu'au 14e et 15e siècle après la naissance du Christ. À ce moment commence la cinquième civilisation, la nôtre, la cinquième civilisation post-atlantéenne, à laquelle succéderont une sixième et une septième civilisation. Cette septième civilisation verra reparaître sous une autre forme l'esprit de l'antique époque indienne. Nous allons voir qu'il est une loi étrange qui nous permet de comprendre l'effet de forces merveilleuses agissant au cours de ces périodes et les rapports qu'elles ont entre elles. Regardons d'abord la première période, celle de la civilisation de l'Inde antique. Nous verrons qu'elle doit réapparaître et briller sous une nouvelle forme au cours de la septième période. La seconde période, que nous avons appelée la culture perse, réapparaîtra dans la sixième. Après la disparition de notre civilisation actuelle, nous verrons s'épanouir au cours de la sixième période la religion de Zarathoustra. Et nous allons voir, au cours de cette étude, que notre cinquième période est comme la résurrection de la troisième époque, de la culture égyptienne. La quatrième période forme un centre. Elle n'a de correspondant ni avant ni après elle. Essayons de mieux comprendre cette loi mystérieuse. Il y a dans la civilisation de l'Inde quelque chose qui choque l'homme moderne. C'est la répartition en castes. Caste des prêtres, caste des guerriers, des commerçants et des ouvriers. Ces cloisons ne sont pas en harmonie avec la conscience moderne. Elles semblaient toutes naturelles dans la première civilisation post-atlantéenne. Il ne pouvait pas en être autrement. Les hommes étaient répartis en quatre groupes selon les différentes propriétés de leur âme. Cela ne semblait nullement une injustice, car cette répartition était faite par les chefs, et ceux-ci étaient porteurs d'une telle autorité reconnue que tout ce qu'ils ordonnaient était considéré comme juste. On se disait que les guides, les sept rishis, qui, pendant la période atlantéenne, avaient reçu l'enseignement d'êtres divins, savaient quelle était la place de chaque homme. Cette répartition semblait donc toute naturelle. Elle se reproduira au cours de la septième période, mais tout autrement. Si autrefois elle fut imposée par autorité, plus tard, les hommes se grouperont d'après l'évidence objective des faits. Il se passe quelque chose d'analogue chez les fourmis. Elles forment un état dont la merveilleuse organisation et la faculté d'accomplir une tâche relativement énorme ne sont approchées par aucune collectivité humaine. Et pourtant, nous y voyons réaliser ce qui semble si choquant aujourd'hui à l'homme, la division en castes. Chaque fourmi accomplit une tâche qui est le chaînon d'un travail commun. Quoi qu'on en pense aujourd'hui, les hommes en viendront à se rendre compte que le salut de l'humanité réside dans cette répartition en groupes objectifs et ils trouveront le moyen de diviser le travail sans donner lieu à des injustices. La société humaine apparaîtra comme un organisme d'une merveilleuse harmonie. C'est là quelque chose que nous pouvons lire dans les annales de l'avenir. Ainsi réapparaîtra l'Inde antique. Et c'est d'une façon analogue que certains caractères de la troisième période réapparaîtront au cours de la cinquième. Serrons de plus près notre sujet. Il embrasse un immense domaine, celui qui vit surgir les pyramides gigantesques et le sphinx énigmatique. Il s'éclaire du fait que les âmes des anciens habitants de l'Inde étaient incarnées en Égypte et sont incarnées aussi aujourd'hui. En poursuivant un peu plus dans ces détails cette loi générale, nous allons rencontrer deux faits qui nous montreront comment retrouver les liens mystérieux qui rattachent entre elles la civilisation égyptienne et la nôtre. Nous avons vu que la loi des répétitions s'exprime à travers les différentes périodes de civilisation, mais elles nous apparaîtront plus profondes encore lorsque nous la suivons à travers les régions spirituelles. Nous connaissons tous un tableau plein d'un sens profond, le célèbre tableau de Raphaël qui, par un enchaînement de faits singuliers, se trouve actuellement chez nous, au centre de l'Allemagne. Deux points, la Madone Sixtine. Dans ce tableau, que d'innombrables reproductions mettent à la portée de tous, comment ne pas admirer la merveilleuse pureté qui nimbe toute la Vierge ? Comment ne pas s'émouvoir en contemplant le visage de la mère, la curieuse apesanteur de tout son corps, le regard profond de l'enfant. Et quand nous regardons les nuées qui les entourent et d'où il émerge tant de petites têtes d'anges, comment ne pas ressentir quelque chose de plus profond encore et qui nous fait mieux comprendre le tableau tout entier ? Je sais que c'est audacieux, mais je le dis pourtant. Si l'on regarde profondément, gravement, cet enfant sur les bras de sa mère, et derrière lui les nuages qui s'harmonisent en un ensemble de têtes angéliques, on comprend que cet enfant n'est pas né d'une façon naturelle. Il est l'un de ceux qui planent tout autour dans les nuages. Cet enfant Jésus est, lui aussi, l'une de ces nuées ayant pris forme, devenue plus dense, comme si l'un des petits anges s'était envolé des nuages pour venir se placer dans les bras de la Madone. C'est là un sentiment tout à fait juste. Si nous savons le faire vivre en nous, notre regard s'élargira. Il se libérera des idées étroites qu'on se fait sur les liens naturels des choses de la vie. C'est à l'aide d'un tableau comme celui-là que le regard borné s'élargit et peut se libérer de certaines conceptions étroites sur les liens naturels qui tissent l'existence. En particulier, il pourra imaginer que ce qui advient selon des lois actuelles a pu se faire autrefois différemment. Nous verrons qu'il a existé autrefois une conception qui n'était pas sexuée. Bref, ce tableau nous fait pressentir les liens profonds qui unissent le monde humain à celui des forces spirituelles. Lorsque, quittant la Madone, nous reportons notre regard en arrière jusqu'à l'époque égyptienne, nous y rencontrons une image toute semblable et aussi noble. Les Égyptiens ont célébré Isis, cette figure à laquelle se rattache la sentence « Je suis ce qui fut, ce qui est, ce qui sera ». Aucun mortel encore n'a soulevé mon voile. Un mystère profond, recouvert d'un voile épais, voilà ce que nous révèle Isis, cette aimable spiritualité de Dieu, Isis que les anciens Égyptiens ont vue avec l'enfant Horus, comme nous voyons la Madone avec l'enfant Jésus. Cette Isis nous est représentée comme portant en elle l'élément éternel, et ceci nous rappelle le sentiment que nous éprouvons à la vue de la Madone. Il faut que nous sachions voir, en Isis, la forme de profond mystère qui repose sur des réalités spirituelles. La Madone nous rappelle Isis. c'est Isis qui ressurgit en elle. Tel est le lien qui unit ces deux figures. Il faut sentir avec le cœur les grands mystères qui unissent dans le monde spirituel la civilisation égyptienne et la nôtre. Nous pouvons retrouver encore un autre rapport. Nous savons comment l'Égyptien traitait ses morts. Nous connaissons la coutume des momies. L'Égyptien tenait à ce que la forme physique extérieure soit conservée longtemps, et il peuplait ses tombes de momies dont il savait garder la forme extérieure. Il donnait aux morts dans sa tombe certains ustensiles, certaines richesses, souvenirs de la vie terrestre écoulée, conformément aux nécessités de la vie physique. Il fallait que fût conservée l'image de ce que l'homme avait été dans le monde physique. C'est ainsi que l'Égyptien liait ses morts au plan physique. Cette coutume s'étendit de plus en plus et elle caractérise tout à fait l'ancienne civilisation égyptienne. Mais une pratique de ce genre n'est pas sans effet sur l'âme. Songeons que nos âmes ont habité ces corps d'Égyptiens, qu'elles se sont réellement incarnées dans ces corps dont on faisait des momies. Nous avons vu, au cours d'autres études, que l'homme, lorsqu'il est libéré de son corps physique et de son corps éthérique après la mort, entre dans un autre état de conscience, et qu'en aucune façon il ne vit inconsciemment dans le monde astral. Il peut alors, du haut des mondes spirituels, abaisser son regard vers la terre physique, bien qu'à l'inverse, il ne soit pas possible aujourd'hui de voir d'ici le monde spirituel. Par contre, il ressent la manière dont son corps est conservé, embaumé, brûlé ou décomposé. Le rapport qu'il a avec son corps est différent suivant les cas. Le fait que dans l'ancienne Égypte, on embaumait les corps a eu pour conséquence que les âmes, après la mort, ont fait une expérience toute particulière. Lorsqu'elles regardaient vers la terre, les âmes savaient, deux points, c'est mon corps. Elles étaient liées à leur corps physique. Elles avaient devant elles leur forme corporelle. Et ce corps prenait de l'importance pour elle, car après la mort, l'âme est en mesure de recevoir des impressions. Celle que le corps momifié imprimait en elle la marquait profondément et la formait en conséquence. Cette âme, après avoir traversé des incarnations au cours de la civilisation gréco-latine, vit aujourd'hui en nous. La vision de ce corps momifié vers lequel elle s'est toujours sentie attirée, n'a pas été sans effet sur elle, car ce n'est pas un fait de petite importance. Elle a acquis un attachement pour le corps, et le résultat en est aujourd'hui la tendance à donner du prix à toute la vie physique. Cet amour de l'homme moderne pour ce qui est matériel vient de ce que les âmes ont autrefois contemplé leur momie, la forme qui les avait exprimée. L'homme a ainsi appris à aimer le monde physique. C'est pourquoi il pense si souvent aujourd'hui que seul le corps physique a de l'importance entre la naissance et la mort. Cette idée n'est pas née sans cause. Ceci n'est pas une critique contre la civilisation égyptienne. Il s'agit simplement d'attirer l'attention sur les nécessités qu'entraîne le retour des incarnations de l'âme. Sans ce lien qui les rattachait à leur momie, les êtres humains n'auraient pu poursuivre leur évolution. L'homme se serait désintéressé aujourd'hui complètement du monde physique si les Égyptiens n'avaient pas pratiqué le culte des momies. Il fallait que cela soit ainsi pour que s'éveille dans les âmes un intérêt justifié pour le monde physique. La façon dont l'homme a organisé le monde et dont il le voit aujourd'hui est une conséquence de cette coutume égyptienne de momifier le corps après la mort. Car le courant de la civilisation était guidé par des initiés qui savaient voir l'avenir. Les Égyptiens ne se sont pas mis à embaumer les corps tout à coup, suivant une impulsion soudaine. En ce temps-là, l'humanité était guidée par de hautes individualités qui veillaient à ce que fût fait, ce qui devait être fait, par la force de l'autorité. Dans les écoles initiatiques, On savait que notre époque devait correspondre à la troisième civilisation. Ces rapports mystérieux, les prêtres les voyaient, et ils ordonnèrent la momification des corps afin que les âmes puissent acquérir la tendance qui leur ferait chercher plus tard une connaissance spirituelle ayant son point de départ dans le monde physique extérieur. Le monde est conduit par la sagesse, et nous avons là un exemple de la coordination existant entre les époques. Si les hommes pensent comme ils le font aujourd'hui, c'est grâce aux expériences qu'ils ont faites dans l'ancienne Égypte. Nous plongeons là un regard vers de profonds mystères qui se manifestent dans les courants de civilisation. Ces mystères, nous n'avons fait encore que les effleurer. L'image de la Vierge, souvenir de celle d'Isis, l'embaumement des corps et son effet sur les âmes ne découvrent encore que superficiellement les véritables rapports spirituels. Mais nous approfondirons notre étude sans nous arrêter à l'apparence extérieure, nous irons jusqu'à ce qu'est la raison profonde de cette apparence. La vie extérieure s'écoule entre la naissance et la mort. La vie après la mort est beaucoup plus longue. C'est ce que nous appelons le Kamaloka. Et les expériences dans le monde spirituel. Les expériences dans les mondes suprasensibles sont d'aspect aussi variés que celles du monde physique. Examinons quelles ont été nos expériences dans cet autre monde, du temps de notre incarnation égyptienne. Quand notre regard parcourait la pyramide ou se posait sur le sphinx, comme notre vie était différente. Tout autre était aussi notre vie entre la naissance et la mort. On ne peut aucunement comparer notre vie d'alors à notre vie actuelle. Cela n'aurait aucun sens. Et plus diverse encore que cette vie extérieure était la vie de l'âme entre la mort et une nouvelle naissance. À l'époque égyptienne, l'âme a eu de tout autres expériences qu'en Grèce ou qu'au temps de Charlemagne, ou qu'à notre époque. Dans l'autre monde, dans le monde spirituel, se déroule également une évolution, et ce que l'homme vit aujourd'hui entre la mort et une nouvelle naissance est tout autre que les expériences de l'Égyptien lorsqu'il déposait à la mort sa forme extérieure. De même que l'effet de l'embaumement trouve son prolongement dans la mentalité actuelle, dont il est la cause, de même que cette vie extérieure de la troisième époque se répète dans la cinquième, l'évolution se poursuit dans ces mondes mystérieux entre la mort et une nouvelle naissance. Là aussi, nous découvrirons des liens mystérieux, et nous aurons rassemblé des éléments pour comprendre réellement ce qui vit en nous comme le fruit de cette antique période. Nous serons alors conduits dans les puits profonds du labyrinthe de l'évolution terrestre. Mais c'est précisément de cette façon que nous connaîtrons le lien entre ce qu'a édifié l'Égyptien ou ce qu'a pensé le Chaldéen et ce que nous expérimentons aujourd'hui. Nous retrouverons dans ce qui nous entoure, dans ce qui nous intéresse, la conséquence d'actes accomplis autrefois. Ces rapports s'éclaireront sur le plan physique et sur le plan spirituel. Nous verrons également comment progresse l'évolution, comment la quatrième période forme entre la troisième et la cinquième un extraordinaire chaînon. Notre âme s'élèvera à la considération des rapports profonds des choses et nous en tirerons une compréhension plus complète à l'égard de ce qui vit en nous.